Eh bien, l'Église adventiste occidentale vieillit. Elle vieillit de jour en jour, je l'entends, j'ai pas eu de réponse. Elle vieillit, je parle en termes d'âge moyen, non en années d'existence, parce que notre Église est vieille de plus de 200 ans. Mais elle vieillit surtout à cause de l'exode de beaucoup de nos jeunes. Et bon, ma profession m'oblige à m'intéresser aux jeunes. Quand je dis m'oblige, non, c'est de tout cœur. Mais aujourd'hui, nous allons justement parler des jeunes et du problème des jeunes dans l'Église. Je dis du problème, oui, du problème, parce qu'il y a un problème. Si nos jeunes s'en vont, c'est qu'il y a un problème. Et si l'Église de Woluwe aujourd'hui compte quand même beaucoup de jeunes, il n'est pas sûr que demain, tous ces jeunes soient encore dans l'Église. Alors, les statistiques sont claires. Si l'Église adventiste en général, mais l'Église de Woluwe aussi, si l'Église ne change pas, la plupart de nos jeunes ne seront plus parmi nous, assis sur nos bancs, dans une génération. Et ça, c'est grave. Que peut-on faire pour changer la situation ? Eh bien, rien de tel que de demander directement aux jeunes. C'est ce que la Conférence Générale a fait en lançant, il y a quelques années, une vaste enquête intitulée « Value Genesis » au niveau mondial. D'abord, bien sûr, comme toujours chez nous, ça a commencé aux États-Unis, n'est-ce pas ? On a interrogé en 1990, en 2000, en 2010, on a lancé cette enquête vers 25 000 jeunes adventistes âgés de 15 à 25 ans et issus d'à peu près, après, 22 pays européens puisqu'on a lancé l'enquête sur l'Europe en 2006-2007, 2005 et 2010. On fait ça par période, n'est-ce pas, pour voir s'il y a une évolution dans la situation, dans les réponses des jeunes. Et cette enquête en Europe, appelée aussi donc Value Genesis, avait pour thème d'accroche qui change l'Église ? Qui change l'Église ? Réponse, c'est toi avec ta souris. Avec quoi ? C'est toi avec ta... J'ai bien dit ta souris. Quelle souris ? Ben celle de l'ordinateur. Parce que cette grande enquête, elle a été faite par Internet. Elle durait une heure, elle s'adressait normalement à 6000 jeunes adventistes européens, donc de 22 pays différents, et il y en a, pardon, à tous les jeunes, il y en a 6000 qui ont répondu. Alors, bien sûr, on a mobilisé un monde fou pour la faire. J'ignore si certains parmi vous y ont participé. En Belgique, on n'en a pas entendu parler beaucoup. Je sais qu'il y a un pays européen qui a refusé d'y participer. C'est peut-être nous, la Belgique, je ne sais pas. On n'a pas mentionné le pays, évidemment, on n'a pas voulu lui faire honte. Hein. Et les résultats de cette enquête ont été rassemblés statistiquement par trois universités adventistes, par Collonges en France, par Frienzo en Allemagne et par Newbold en Angleterre, parce que les pays du Nord étaient aussi concernés, ce n'est pas uniquement pour notre division. Et le rapport partiel dont je tire les résultats provient d'un article qui a été publié dans un ouvrage que vous pouvez acheter. Il est dans nos publications adventistes qui s'intitule « L'Église, les enfants et les jeunes ». Il a été publié par l'un de mes collègues, Gabriel Monet, qui est professeur de théologie pratique à Collonges. Et qui est, donc, ce livre a été publié en 2011. Et dans ce livre, le dernier article reprend cette étude et il est transcrit, donne les résultats, donc il est transcrit par Corrado Corazzi, qui est directeur de la jeunesse adventiste au niveau de notre division. Quels sont les buts de cette enquête Value Genesis ? Les buts de l'enquête, premièrement, c'est rompre les barrières en disant aux jeunes « Sois notre partenaire, tu as ton mot à dire !» Les jeunes, vous pouvez répéter ça ? Sois notre partenaire, et qui parle ? Nous, les plus anciens. Sois notre partenaire, soyez nos partenaires, vous, parce que vous avez votre mot à dire, où ça ? Mais dans l'Église, bien sûr, dans l'Église. Deuxième but, c'est mieux comprendre comment les jeunes voient notre Église. Troisième but, c'est connaître les attentes de nos jeunes par rapport à cette Église. Quatrième but, savoir les motiver pour en faire des partenaires de la mission que Christ nous a confiée. Et cinquième but, aider l'Église à définir en fonction de toutes ces réponses quel changement il faudrait adopter afin de permettre aux jeunes de se sentir véritablement partenaires. Parce que, attention, j'ai dit, il ne faut pas tout changer, c'est essayer de définir quels sont les changements que les jeunes souhaiteraient voir apparaître dans l'Église pour qu'ils s'y sentent bien, pour qu'ils y participent, pour qu'ils s'engagent à côté des personnes de plus d'expérience. Le défi est vraiment sérieux, nous dit Corazzo Cozzi. Il convient d'y réfléchir et d'y répondre absolument, car les jeunes veulent voir l'Église vivre avec son temps. Il faut une Église du 21e siècle et donc intégrer avec sagesse certains changements. Alors, lisez bien ce qui est écrit, hein. Intégrer avec sagesse certains changements. Il ne s'agit pas de faire table rase de tout. Nous arrivons, continue Corazzo, à la fin de ce monde. Jésus est sur le point de revenir. Il est temps de renforcer le potentiel de l'Église, d'accomplir la mission qui nous a été confiée directement par Jésus. Tous les jeunes de l'Église ont un rôle précis à accomplir. Même les plus petits, n'est-ce pas? Tous ont un rôle précis à accomplir. Leur donner cette opportunité est un devoir de l'Église tout entière. Souvent, nous les adultes, les gens d'expérience, on n'y croit pas trop à ça, que tous les jeunes, même les plus petits, ont un rôle à jouer dans l'Église, ont une voix à faire entendre. Et quand moi j'étais professeur à Collonges, j'y croyais pas trop. Et un jour, Daniel oublie, un jour, en 2005, au début de l'année scolaire, j'ai vu apparaître ce jeune homme qui s'appelle Léo Leandro, qui est d'origine argentine. Et bon, il est arrivé avec sa femme, une péruvienne française, ou une française péruvienne, comme vous voulez. Et il ne savait presque pas parler le français, paraguayen. Mais il a commencé ses études de théologie et nous avons appris à nous connaître et à nous apprécier. Léo m'a dit dès le départ, ici ça ne va pas. Il faut faire quelque chose. Il faut changer les choses. J'ai dit oui, mais ça ne va pas aussi facilement que tu ne le crois. Et il a commencé à observer la situation. Et puis il s'est investi. Il est parti. Il s'est engagé et il a proposé des activités. Il est arrivé à Collonges en 2009 quand il avait 25 ans. Et en 2011, deux ans après, il y avait une lacune dans les services de Collonges. Il n'y avait pas d'aumônier pour les étudiants. Et une dame a donné un legs en mourant à la faculté de théologie. Et dans ce legs, dans cette donation, on a créé des salaires. Des demi-salaires à distribuer aux étudiants pour qu'ils remplissent une fonction. Nouvelle fonction, utile. Et on a créé la fonction de l'aumônerie pour les étudiants. Et d'abord, on l'a confié en 2009 à un fils de pasteur qui était très dynamique et finalement qui n'a pas fait grand-chose. Et puis après, voyant que ça ne fonctionnait pas avec lui, eh bien, on l'a confié à Léo. Et Léo, c'était l'occasion pour lui de donner les preuves de ce qu'il voulait faire. Et il a commencé à creuser, mais à creuser. C'est un jeune dynamique qui a des idées, qui est moderne, qui est intelligent et aussi très responsable. Et il a commencé à choisir parmi tous ses camarades des gens qui voulaient s'investir et qui avaient des capacités, mais qui ne savaient pas comment faire. Et il leur a donné des directives. Il a dit, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu verras, ça va marcher. Et quand ça ne marchait pas, il les aidait. Et par exemple, il a commencé à faire 10 minutes avec Jésus chaque matin avant les cours. Des réunions de prière, 10 minutes, pas plus, dans le hall de la faculté de théologie. Moi, j'y étais encore et j'y croyais pas trop. D'ailleurs, j'y passais, je regardais comme ça, j'y allais pas. Honnêtement, hein. Et puis, petit à petit, ce groupe, il s'est formé et c'était tellement intéressant qu'il y a une grosse partie des étudiants et des professeurs qui y vont chaque matin aujourd'hui. Léo a créé, par exemple, un groupe d'études qu'il a intitulé USB, Qu'est-ce que c'est que USB? Vous connaissez le mot USB? C'est une clé, USB. Eh bien, chaque sabbat matin, apporte ton USB. Un sabbat béni. Connecte-toi à Christ. Un sabbat béni. Connecte-toi avec ta clé. Tu auras un sabbat béni. Il faut y penser. C'est dynamique, c'est moderne. Tous les jeunes y vont au moment USB. Parce qu'il y a des choses intéressantes. Bon, je ne pourrais pas vous raconter tout ce qu'il est en train de faire, mais le résultat est qu'aujourd'hui, ça bouge. Et un de mes collègues m'a dit, le jour où Léo partira de Collonges, on aura un grand trou. On aura un grand trou, aujourd'hui est en quatrième, je vous le dis, parce qu'on ne sait jamais si dans un an vous avez besoin d'un excellent pasteur, mettez le grappin dessus. Et, on aura un trou, mais même s'il n'y a personne qui le remplaçait, le travail qu'il a fait aura des effets, aura une portée très longue. Il y a des jeunes qui peuvent. Il faut juste leur céder de l'espace et leur donner l'occasion. Bon, je reviens à notre enquête Value Genesis. Voici très brièvement quelques résultats de cette enquête. Premièrement, on a constaté, d'après les réponses des jeunes, que la foi grandit dans la famille. Les jeunes perçoivent en effet que leur maman sont nettement plus religieuses que leurs papas. Les papas s'occupent de l'évangélisation ou du contact à l'extérieur, mais les mamans restent à l'intérieur. Autrement dit, c'est surtout grâce aux mamans qu'ils choisissent généralement de devenir adventistes. Donc, maman, prenez grand soin d'eux, surtout entre 5 et 13 ans, parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus réceptifs au spirituel. Deuxième élément, la foi grandit dans l'Église, à l'intérieur de l'Église, dans la famille, mais dans l'Église. En général, les jeunes trouvent important de fréquenter notre église, de participer à l'école du sabbat, au service de culte. Mais attention, maintenant ouvrez grand vos oreilles. Ils s'y sentent très mal à l'aise pour poser des questions. La moitié des jeunes voient l'église comme étant très peu chaleureuse, peu accueillante, surtout pour leurs amis, les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas l'église adventiste. L'Église est peu accueillante, peu chaleureuse pour les jeunes. Y a-t-il des nouveaux jeunes ici que vous ne connaissiez pas et qui soient entrés comme ça sans qu'on les salue, qu'on s'intéresse à eux? Non, l'Église n'est pas chaleureuse. Si on ne s'intéresse pas aux personnes qui viennent la première fois, elles ne reviendront plus, et surtout s'ils sont jeunes. Et pourquoi? Mais notamment à cause du langage qu'on utilise dans notre Église, du langage qui est démodé, d'une part, trop difficile, de l'autre, et de l'atmosphère liturgique, donc de notre culte, notre service de culte, cette atmosphère est trop vieillotte. Elle n'est pas assez moderne, elle n'est pas assez dynamique, elle n'est pas assez jeune. Ils trouvent que les prédications, le sermon comme on l'appelle dans le temps, mais ce mot est aboré. Il ne faut pas dire le sermon, il faut dire le message. Alors j'ai noté que Colia a utilisé le bon mot pour les jeunes ce matin, le message d'aujourd'hui. Eh bien, ils considèrent que le message que l'on dispense chaque sabbat matin est moyennement utile pour leur vie quotidienne. Et ils en attendent beaucoup mieux. Alors, un autre point, c'est qu'ils connaissent très mal ou pas du tout la mission de l'Église. Autre point encore, ils sont très peu impliqués dans la direction de l'Église. Où généralement, s'ils s'y trouvent, ils sont relégués dans le département de la jeunesse. Ben oui, pour s'occuper des jeunes, il faut des jeunes, il ne faut pas des vieux. Et dans la musique, ben pour la musique, le piano, non, moi je ne fais plus de musique, autant que ce soit un jeune, il fera mieux que ça que moi. Mais les autres postes, hop, on les garde. Ça, ce n'est pas pour les jeunes. Donc jeunes, dans la jeunesse, dans l'école du sabbat des enfants, dans la musique, mais ailleurs, on ferme les portes. Et ils pourraient s'investir ailleurs. Les jeunes reconnaissent pourtant tous tirer profit de ce que l'Église leur offre pour développer leur foi spirituelle, leur foi personnelle, notamment comme du sabbat, les liturgies spéciales organisées pour eux, les activités de jeunesse nationales, internationales, tout ça, c'est bien. Mais leur foi est légaliste. Ils prient, ils lisent leur Bible ou d'autres livres religieux, ils écoutent la musique, mais ils ont tendance à croire que le salut se mérite. Se méritent selon leur obéissance à Dieu, aux commandements, notamment ils doivent respecter le sabbat et les autres commandements. Ça dépend aussi, leur salut dépend aussi de leur respect
et de leur pratique des normes adventistes. Par conséquent, et ici c'est grave, la plupart des jeunes ont peur de n'être pas prêts pour le retour de Jésus. Et moi je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais peur de ne pas être prête pour le retour de Jésus. Du côté social, ils ne sont pas très engagés, très peu engagés. Il y a un malaise. Plus de la moitié des jeunes participent aux activités et aux programmes de l'Église, et certains y ont déjà invité des amis. Par contre, ils ne s'engagent pas dans les activités sociales, par manque d'idées, par manque de ressources humaines. Les jeunes éprouvent donc, pour conclure, un besoin urgent de contextualiser la pratique de la foi, d'enlever tout ce qui est formel de notre liturgie, de moderniser et de simplifier le contenu, le vocabulaire de nos messages, pour pouvoir être fiers de leur Église et d'y inviter des amis. Donc, pour pouvoir s'impliquer davantage dans la mission d'évangélisation. Viens voir où je fais mûrir ma foi et où je la nourris. C'est ça qu'ils devraient pouvoir dire à leurs amis avec fierté. Viens à l'Église avec moi. Viens voir ce que je deviens. Ça vient de là. Pour qu'ils fassent ça, qu'ils invitent leurs amis à l'Église, il faudrait qu'ils se sentent bien et que l'on change certaines choses. Et c'est clair. Le problème, rassurons-nous, ne se trouve pas au niveau des croyances fondamentales. Ça, on n'en parle même pas. Par contre, le problème vient de l'être, la manière d'être, de vivre, donc du rationnel, du mode de fonctionnement de notre Église. Alors nous allons prendre un exemple biblique. Nous allons réfléchir un petit peu sur le cas de Paul. Paul qui a changé au 1er siècle l'Église naissante. C'est un exemple typique. D'après la tradition, Saul de Tarse serait né en l'an 8. Ce qui le rendrait, dit Jean, plus jeune que Jésus. Entre parenthèses, Jésus n'a vécu son activité sur terre, disons, en notre faveur, c'est passé de ses 30 à ses 33 ans environ, tant qu'il était jeune. Et Paul aurait été 10 ans plus jeune que lui. Il est mort environ à 60 ans, martyr à Rome entre 64 et 68. Paul et Saul de Tarse, c'est le même personnage, ils portaient donc deux noms. Hein, Saul et Paulus en latin, ce qui signifie « petit ». Peu. On sait, par la tradition qui nous a gardé l'un de ses portraits, notamment un livre apocryphe intitulé « Les actes, pas des apôtres, mais les actes de Paul », qui date environ de 190 après Jésus-Christ, on le décrit comme un homme de petite taille, à la tête dégarnie chauve. C'est la photo, une mosaïque que je vous ai reproduite là et qui se trouve dans une église, parce que c'est ces portraits de Paul que l'on trouve dans les représentations iconographiques des églises des premiers siècles. Elles proviennent de là. Hein. Donc c'est un homme de petite taille, à la tête dégarnie chauve, les jambes arquées, vigoureux, les sourcils joints. Hein, le nez légèrement aquilin. C'est vrai que Paul était un homme exceptionnellement endurant. 2 Corinthiens nous racontent combien il a fait de fois naufrage, qu'il a été lapidé, emprisonné. Il a survécu à tout ça. Petit, maigrichon, mal foutu, mais résistant. Hein. Alors, c'était un homme pluriculturel, d'éducation. Il était polyglotte, il parlait sa langue maternelle, l'araméen, celle de Jésus, il parlait l'hébreu, la langue de la culture classique de l'époque, il parlait le grec, la langue officielle de l'Empire, il parlait fort probablement aussi le latin. Il était très actif, il a voyagé énormément, c'est un homme moderne, Paul. Il a voyagé pendant 13 ans, 13 années de voyage à son actif, dont 3 voyages missionnaires entre 46 et 58. Et pendant ces 13 ans, il a parcouru 30 000 kilomètres, à pied, à cheval, en bateau. Il a fondé 40 nouvelles communautés, 40 nouvelles églises pendant ce temps. Mais comment s'y est-il donc pris, ce petit bonhomme? Ne parlons pas aujourd'hui de ses capacités d'évangélisateur, pas non plus de l'assistance de l'esprit, mais regardons ça d'un point de vue humain, fondamental. C'est clair, au point de vue humain, il n'a pas réussi ce tour de force tout seul. C'est pas possible. Il a fallu qu'il ait ce qu'on appelle aujourd'hui des parrains. Et ensuite, des collaborateurs. Alors, nous allons prendre le premier point. Paul, jeune converti, a besoin de parrain. Il est parrainé. Vers l'an 30, nous voyons pour la première fois Paul apparaître dans l'église quand il assiste au meurtre d'Étienne. Et il a à peu près 30 ans. Parce qu'on sait que, d'après Actes 26-10, alors mais les textes là, nous n'allons pas les lire parce que nous n'avons pas le temps. Je les prends, si vous voulez les noter, vous pourrez vérifier. Hein. Il a donc une trentaine d'années parce que Actes 26-10 nous dit qu'il faisait partie du Sanhédrin. Et pour faire partie du Sanhédrin, il fallait avoir minimum 30 ans. Donc voilà, Paul démarre à 30 ans dans notre Bible. Nous connaissons tous son histoire de sa conversion sur le chemin de Damas. Elle se trouve dans le 9e chapitre des Actes. Et après sa conversion, il va bénéficier de la protection d'un chrétien d'expérience qui va se porter garant pour lui devant les frères. C'est Ananias, Actes 9, 26 et 27. Sans Ananias, Paul n'aurait jamais pu entrer en contact avec les chrétiens puisqu'il était horriblement méchant envers eux. Donc tout le monde en avait peur. Et il a fallu Ananias, guidé par l'Esprit, qui le présente, qui le protège, qui le parraine. Et voilà, après quelques jours de contact avec les frères à Damas, voilà que Paul prêche dans la synagogue et il prêche tellement bien et tellement fort qu'il se crée des ennemis directs et il est obligé de fuir, malgré Ananias. C'est son premier échec. Premier échec. Il s'enfuit et il va passer 3 ans dans le désert d'Arabie. Puis il va revenir à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Galates 1, verset 18. Il tente de se joindre aux disciples, mais tous le fuient, tous en ont encore peur, même 3 ou 4 ans après sa conversion. Alors, Actes 9, 27 nous dit qu'un certain Barnabé le prit avec lui. Barnabé le prend avec lui. Quand on prend quelqu'un avec soi, c'est pourquoi ? Pour l'aider, n'est-ce pas ? Pour le conduire quelque part, pour le guider. Et voilà que Barnabé va prendre Paul avec lui et il l'introduit à Jérusalem auprès des apôtres. Il va l'introduire auprès de Pierre et auprès de Jacques. Ce seront les deux seuls personnages avec qui Paul va avoir un contact. Pierre va l'héberger chez lui pendant 2 ou 3 semaines. Ça se trouve dans Galates 1, 19. Pierre et Jacques, le frère de Jésus. Et l'amitié entre Paul et Pierre va durer jusqu'à la fin de leur jour. Elle s'est nouée à ce moment-là. Et remarquez que tous les deux, Pierre et Paul, vont devenir les apôtres des gentils. Et voilà, Paul, à Jérusalem, prêche de nouveau dans la synagogue et à l'extérieur, et est de nouveau persécuté, et il doit de nouveau fuir. Malgré la protection de Pierre et Jacques. Deuxième échec. Il s'enfuit à Césarée. Mais Paul ne va pas rester longtemps non plus à Césarée. Il est encore persécuté, si vous lisez les Actes des Apôtres. C'est tout le chapitre 9. Il doit fuir, et là, il en a marre. Il retourne dans sa ville natale. Il s'en va à Tarse. Et là, il va encore rester 3 ans. Troisième échec. Oui, on sait qu'il prêche à Tarse, qu'il y a quelques convertis, mais très peu. Troisième échec. Seul, Paul est jeune. Il est très instruit. Il a étudié auprès de Gamaliel. Mais il n'a pas d'expérience. Et il gâche tout. On n'en parle jamais de ces affaires-là. On insiste toujours sur le grand prédicateur Paul. Mais personne ne parle de ses débuts. Il a échoué. Et lamentablement, malgré toutes ses capacités, malgré aussi ses parrainages. Alors, à un moment donné, les frères de Jérusalem disent à Barnabas ou à Bernabé qu'il faudrait aller évangéliser à nouveau. Et Barnabé se souvient de Paul, puisqu'il a eu un contact au départ, et il va chercher Paul à Tarse. Et il le prend avec lui pendant 1 an, Actes 9. Verset 30, il va le prendre avec lui pendant 1 an, parce que Paul n'y arrive pas. Autrement dit, Paul doit apprendre le métier de prédicateur, il doit apprendre la pratique pastorale avec un homme d'expérience, avec un homme mûr et cet homme mûr, c'est Barnabé.
Et c'est Barnabé qui va vers Paul, et c'est Barnabé qui l'invite à l'accompagner et à le former.
Le mouvement vient de l'aîné vers le plus jeune. Et alors, ils s'en vont tous les deux, ils sont à Antioche. Et là se réalise quelque chose de merveilleux.
Saul, Paul est l'assistant de Barnabé et ils ont du succès. Barnabé est un homme bon, plein de l'Esprit Saint et de foi, dit Actes 11, 24.
Et voilà que, à eux deux, parce que la tâche était trop vaste pour lui tout seul, ils vont réussir dans leur entreprise d'évangélisation. Et Paul devient le bras droit de Barnabé. Durant toute cette année, tous deux enseignent aux pagano-chrétiens, donc les païens qui vont se convertir et vont structurer l'Église. Aujourd'hui, nous dirions que Paul, pendant un an, a accompli son stage d'évangéliste sous la tutelle d'un pasteur expérimenté, Actes 9, 26. Et c'est alors qu'entre en piste le Saint-Esprit. Là, alors qu'à Antioche, les frères sont réunis, en prière, le Saint-Esprit se révèle à eux et dit « Mettez à part pour moi, pour une œuvre spéciale, qui ?»
Paul et Barnabé ?
Non, 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 non. D'abord, c'est Barnabé et Paul. Et puis, nous allons voir après que cette expérience, si vous lisez bien les Actes des Apôtres, vous voyez toujours l'expression au début « Barnabé et Paul ». Nous, nous disons « Paul et Barnabé ». Nous utilisons la dernière expression. Mais au début, c'est Paul, Barnabé et Paul. Autrement dit, c'est Barnabé le chef du couple, du duo. Et Paul n'était que l'assistant, le bras droit de Barnabé. Après, ça va changer. Toujours est-il qu'ils sont choisis dans Actes 13, 3 pour une mission spéciale mise à part. Et voilà, ils partent pour Chypre. C'est le premier voyage missionnaire de Paul. Il a environ 40 ans. Et c'est là, quand ils partent pour Chypre à deux, que l'expression Barnabé et Paul change et devient Paul et Barnabé. Ça veut dire que Paul a fait ses preuves. Il a 10 ans d'expérience maintenant derrière lui et c'est grâce à ça qu'il va devenir le chef de la mission, de son premier voyage missionnaire. Quand ils partent, eh bien, Barnabas dit à Paul, « Écoute, c'est très bien, mais nous ne sommes pas suffisants à deux. J'aimerais qu'on ajoute un deuxième collaborateur à notre équipe. » Et il propose à Paul son cousin, son petit cousin, qui s'appelle Jean-Marc. Jean-Marc est très jeune. Il a environ 18 ans quand nous faisons nos calculs. On trouve ça dans Actes 15, 41. Jean-Marc, au début, il est enthousiasmé. Mais au fur et à mesure que Paul et Barnabé lui expliquent en quoi va consister son travail, il a peur. Il prend peur d'entrer dans ce que nous connaissons comme la Turquie actuelle, la Turquie profonde, la Turquie sauvage, avec toutes les difficultés qui s'annonçaient, il renonce. Et il retourne à Jérusalem. Et Paul est meurtri de ce renoncement. Il est un peu blessé et il s'en souviendra longtemps de cette blessure. Pourtant, d'un autre côté, Jean-Marc, à Jérusalem, va devenir le collaborateur de Pierre. Il va prendre la route avec Pierre, il va devenir l'interprète de Pierre, il va devenir le scribe de Pierre, parce que c'est un excellent traducteur en grec. C'est de Pierre que Jean-Marc va tout apprendre de Jésus, parce que Jean-Marc était issu de la Turquie et non pas de la Palestine. S'il n'avait pas été en contact avec Pierre, Marc, que l'on pense être l'auteur de l'évangile de Marc, n'aurait pas pu l'écrire. En tout cas, un solide lien va se tisser entre les deux hommes. 1 Pierre 5,13 nous dit que Pierre appelle Jean-Marc « mon fils ». Quatrième problème. Juste avant d'entreprendre son second voyage missionnaire, Paul a une altercation avec Barnabé à Antioche de Syrie. Barnabé, de nouveau, avant de reprendre ce deuxième voyage, dit « Nous ne sommes pas assez nombreux, il faut quelqu'un avec nous. Reprenons Jean-Marc, il a mûri maintenant. » Et Paul est toujours sur le souvenir de sa meurtrissure, de l'échec, de l'abandon. Jean-Marc dit « Non, je n'en veux pas, il n'est pas capable. » Barnabé dit « Si !» Et les deux hommes se disputent. se disputent très sérieusement. Barnabé s'en va avec Jean-Marc, l'équipe est scindée, et Paul prend avec lui Silas. Cette dispute, finalement, va être très positive. Parce que, au lieu d'avoir une équipe, il y en aura deux, et deux bonnes. Seulement, les affinités n'étaient pas bien réparties. L'évaluation des capacités de chacun n'était pas bonne. Et Paul a commis une erreur. Faisons une application pratique à nous, aujourd'hui. Quand on veut créer des équipes de travail productives dans notre Église, si l'on veut obtenir de bons résultats, il faut non seulement un climat de confiance et de respect, de complémentarité des capacités, mais il faut aussi des affinités personnelles. Il faut associer des êtres qui s'harmonisent, qui se comprennent un minimum dès le début. Et si l'équipe ne fonctionne pas, il faut avoir le courage de changer les partenaires sans en tenir rigueur au précédent. Paul a commis là une grosse erreur d'évaluation des capacités de Jean-Marc. Cela arrive aussi dans nos églises, surtout par rapport aux jeunes. Les plus mûrs les croient incapables d'assumer telle ou telle responsabilité. Mais Paul, plus tard, a reconnu son erreur et il l'a réparée parce que Jean-Marc va devenir l'un de ses fidèles collaborateurs. Durant sa seconde captivité à Rome, on voit qu'il écrit à Timothée « Prends Marc et amène-le avec toi ici à Rome, car il m'est d'un grand secours pour le ministère » de Timothée 4, 11. Et Marc l'accompagnera dans sa seconde captivité à Rome. On le trouve dans Colossiens 4, 10. Si nous voulons la confiance et la collaboration des jeunes dans notre Église et que nous commettons des erreurs graves de jugement à leur égard, il faut avoir le courage de reconnaître ces erreurs et de les réparer, tout comme Paul. Les jeunes acceptent toujours de recommencer une relation quand on est honnête avec eux et qu'on est honnête avec soi-même, qu'on ne cache pas avec hypocrisie ses erreurs, ses défauts, quand on sait s'excuser, quand on sait faire un retour sur soi-même. Les jeunes acceptent toujours. Mais si on s'y refuse, ils nous tourneront définitivement le dos et ils considéreront les adultes et les gens mûrs comme des gens hypocrites. Ils disent « Faites ça !» mais ne le font pas. Paul a eu d'autres jeunes collaborateurs et amis. Il a eu Tite, il a eu Timothée, il a eu Philémon, il a eu Luc, il a eu des femmes, beaucoup de femmes. Hein, on cite Lydie, la marchande de pourpre, à Philippe, on cite Chloé de Corinthe, Phébé à Sancré, Appia, l'épouse de Philémon. Tous ces personnages ont collaboré et partagé des épreuves. Ces épreuves et cette collaboration les ont scellées. Je vais juste terminer par deux exemples d'amitié entre Paul et ses collaborateurs qui ont travaillé en équipe. Je vais prendre d'abord le cas de Timothée, qui est devenu donc le collaborateur exemplaire de Paul. Timothée va l'aider et le soutenir dans ses nombreuses maladies. Il le suit dans toutes les villes, Corinthe, Éphèse, Jérusalem, Rome. Et il est devenu son secrétaire parce qu'il parlait très bien le grec. Tous ces souvenirs plus tard pousseront Paul à écrire aux Philippiens vers la fin de son ministère lors de sa seconde captivité, peut-être vers 62, quand il était prisonnier à Rome. « Je n'ai vraiment personne qui saura, comme Timothée, s'intéresser d'un cœur sincère à votre situation, » dit-il aux Philippiens. « C'est comme un fils auprès de son père qu'il a servi à la cause de l'Évangile. » Ça se trouve dans Philippiens 2, 19 à 22. Personne ne pourrait s'intéresser d'un cœur sincère à votre situation, à vous, Philippiens. Personne d'autre que Timothée. Timothée est devenu un pasteur jeune, plein d'empathie, capable de résoudre des problèmes, une situation difficile. Il n'a pas toujours été. Quelques années plus tôt, alors que Paul était resté en Macédoine et qu'il avait chargé Timothée de s'occuper de la communauté d'Éphèse, actuellement en Turquie, il écrivait ceci, 1 Timothée 4, 12. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Que personne ne méprise ta jeunesse, etc. Je m'arrête là. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est bizarre. Pourquoi adresser ce conseil à Timothée au lieu de l'adresser aux membres de l'église de Philippe? Que personne ne méprise ta jeunesse. Qu'est-ce que Timothée va pouvoir faire de ce conseil? Il faudrait plutôt qu'il donne ce conseil aux membres de l'église, vous ne croyez pas? Et vous, les membres de l'église de Philippe, ne méprisez pas Timothée. Ne méprisez pas sa jeunesse. Mais non, il dit ça à Timothée. Pourquoi? Eh bien, je pense que c'est à Timothée de régler le problème, de vaincre sa timidité, de vaincre ses difficultés relationnelles. Peut-être pourrait-on formuler la phrase ainsi. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Ça signifierait, prouve à ceux qui te méprisent parce que tu es jeune ou sans expérience, prouve-le que ce n'est pas le cas. Quand on vous dit, petits enfants, t'es trop petit, t'es incapable, mais prouvez donc que vous n'êtes pas trop petit et que vous n'êtes pas incapable. Alors, il n'y aura plus de problème. Et comment? Comment nous prouver que nous sommes capables? Bien, la suite du texte le dit. Non, pardon. La suite du texte le dit. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle, c'est-à-dire un exemple, pour les fidèles, c'est-à-dire pour toute l'Église, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Dis donc, être un modèle. Dans tout ça, en parole, un jeune dans lequel on ne puisse jamais trouver de faille dans ce qu'il dit. Un jeune qui serait un modèle dans son comportement. Pas de problème de comportement dans la vie. Toujours impeccable. Qui soit un amour parfait, exemplaire pour toute l'Église. Il aime tout le monde de la même, je ne vais pas dire de la même manière, mais équitablement. Bonne relation avec tout le monde. Sa foi, solide, pureté. Est-ce qu'on peut le critiquer? Est-ce qu'on peut mal le juger? Pas moyen. Il est irréprochable. Mais dites donc, quand l'apôtre Paul dit ça à Timothée et qu'il lance une pique vis-à-vis des membres de l'Église. Parce que, est-ce que les membres de l'Église sont un modèle pour tout le reste de la communauté, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté? Mais jamais de la vie, vous, les membres de l'Église, vous n'y êtes pas non plus. Mais regardez d'abord les jeunes, si le jeune est un modèle qui n'a rien à se reprocher, vous n'avez pas à critiquer sa jeunesse, voyons. Juste comme raisonnement, n'est-ce pas? Avant, application, appliquons ça. Je crois que, avant de critiquer nos jeunes frères dans la foi, quand je dis les jeunes, il y a les enfants là-dedans. Devons regarder s'ils sont capables de nous en remontrer au point de vue des vertus chrétiennes. Avant de reléguer un jeune au placard, simplement parce qu'il est jeune, considérons d'abord sa vie et voyons s'il vit réellement sa foi. Or, les jeunes sont beaucoup moins compliqués que les adultes, beaucoup moins hypocrites que les adultes, et il y a des chances qu'ils soient bien meilleurs que nous en la matière. Prenons pour terminer un deuxième exemple, celui de Luc. Paul rencontre Luc à Troas. À partir de ce moment, les deux hommes ne se quitteront plus. Ils ont beaucoup de points en commun. Je vous ai parlé tout à l'heure des affinités, n'est-ce pas, pour former une bonne équipe. Ils ont beaucoup de points en commun qui les rapprochent. Tous les deux ont la même culture, je veux dire triple culture, araméenne, hébraïque, grecque. Tous les deux ont un esprit logique, scientifique, dirions-nous aujourd'hui, cartésien. Tous les deux sont curieux, ce sont des gens qui sont toujours en recherche, sans parler bien sûr de cet amour du Christ qui les tient aux tripes. Luc est médecin. Il partage les deux captivités de Paul à Rome. Sans doute, en tant que médecin, a-t-il souvent soigné Paul qui avait une santé fragile? Plusieurs fois, Paul le mentionne dans ses lettres de la captivité comme le médecin bien-aimé. Médecin bien-aimé, c'est beau. Colossiens 4, 14 par exemple. Paul ne fait pas partie des 12 apôtres. Luc non plus. Paul, ni Luc n'ont accompagné Jésus dans son ministère terrestre. Paul a été fermé par Pierre pendant 3 semaines au début de son ministère chez lui, dans sa maison. Il a connu Jésus par le témoignage de Pierre, celui de Jacques. Et Luc a connu Jésus par tout ce que Paul lui a transmis. Vous savez que Luc est l'auteur, bien sûr, de l'évangile de Luc. C'est l'évangile le plus complet, le plus précis que l'on possède des 4 évangiles. Mais il a aussi écrit un livre extraordinaire. Lequel? À part l'évangile de Luc, qu'est-ce que Luc a encore écrit? Eh oui, les Actes des apôtres. Et vous savez que là, on raconte tout ce qui suit la mort de Jésus. Toute l'histoire de la naissance de l'Église. Imaginons un moment que l'on enlève de notre Bible le livre, l'évangile de Luc, d'une part, et le livre des Actes des apôtres, d'autre part, ce que Luc a écrit. Qu'est-ce qui nous resterait? Dites-moi. De l'histoire des débuts de l'Église. Qu'est-ce qui nous resterait? Rien, pas grand-chose. Parce que c'est là-dedans que se trouve tout, dans les Actes des apôtres. L'histoire de Paul, de Barnabé, de Silas, de Timothée, on n'en connaîtrait presque rien, et tous les autres, bien sûr. Il nous manquerait donc une partie essentielle du Nouveau Testament. Et cette partie a eu lieu grâce à quoi? À la collaboration de Paul et Luc. Application pratique. Même si il n'est pas facile aux aînés de transmettre tout ce qu'ils savent aux jeunes, en leur faisant partager leur vie pour qu'un jour ils les remplacent, ou qu'ils accomplissent même une tâche différente, mais tout aussi importante que la leur, c'est un devoir pour les aînés de partager avec les plus jeunes. Partager pour que les fruits se multiplient, c'est plus qu'un devoir, vais-je dire. C'est aussi une joie, c'est un privilège. Eh oui, quand on est adulte, qu'on est même âgé, on a peur d'être mis de côté, d'être relégué dans un vieux placard. J'entendais tout à l'heure Roger Lenoir qui me disait, oui, ben cette semaine, on a fêté quoi? On a fêté ma sortie en tant que directeur du plan de 5 jours. Et on a l'impression que les choses sont terminées et qu'on va être plié comme un vieux chiffon et mis dans le fond d'un placard. C'est un peu ça qu'on sent quelque part, même si on a un beau cadeau, des éloges, etc. On va être remplacé par un jeune, donc on ne sert plus à rien. C'est faux! C'est faux! Ne craignons pas en tant qu'adultes que les jeunes nous délaissent après avoir tout remis entre leurs mains et pendant qu'ils prennent notre place. Le véritable but de l'éducateur est que son disciple devienne meilleur que lui pour qu'il assure la relève. Ça, c'est le but du professeur, c'est le but du pasteur, c'est le but de l'éducateur, des parents. Il faut que les enfants soient mieux que nous, non? Dans l'Église aussi, les jeunes doivent devenir mieux que nous, les aînés. Et en plus, le disciple ne jette jamais son maître comme un vieux chiffon. D'abord parce qu'un vieux chiffon, ça reste toujours utile. L'expérience, ça ne se remplace jamais. Ça ne s'acquiert qu'avec le temps. Quand on a de l'expérience, les autres en auront toujours besoin. Mais surtout, parce que quand on voit l'expérience de Paul et Timothée, Paul et Luc, Paul et tous ces autres apôtres, à chaque fois, on voit dans leur relation l'amour. L'amitié qui les scelle. Luc, le médecin bien-aimé, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Quand on a des disciples, quand on a des collaborateurs à qui on a transmis l'amour, ils ne nous jetteront jamais comme de vieux chiffons. On ne se sépare pas de quelque chose que l'on aime profondément. Sa vieille culotte, sa vieille veste, c'est celle-là qu'on préfère, mes amis. C'est avec celle-là qu'on se sent le mieux. Quand on a appris aux jeunes à nous aimer et à nous respecter, ça reste pour la vie. Face au problème de collaboration entre jeunes et adultes, encore une fois, Paul nous conseille d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. C'est-à-dire de remettre en question nos habitudes, nos attitudes, notre pratique et d'être prêt à les changer. De nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Corrado Cozzi, pardon, par lequel il termine son article de Value Genesis en posant une question. Est-ce qu'il y aura un changement dans l'Église? Est-ce qu'elle sera suffisamment courageuse, cette Église, pour admettre certaines lacunes et envisager des modifications? La réponse est oui. Nous croyons et nous espérons que oui. La plupart des souhaits de changement ne touchent pas les fondements de l'Église, mais plutôt leur mise en pratique, leur application, en invitant les jeunes à faire leur part. Et ils sont prêts. Chaque parent, chaque pasteur, chaque dirigeant, chaque jeune, après avoir pris conscience de cette réalité, doit savoir par où commencer. Personne ne peut plus rester là, à la fenêtre, à regarder sans ressentir une certaine responsabilité. L'intelligence dont Dieu nous a équipés nous aidera à répondre positivement aux besoins de changement exprimés par les jeunes, avec la complicité de notre volonté. Un peu moins de la moitié des jeunes, dans cette enquête, ont déclaré ne pas être baptisés. Quel défi ! Mais ce qui devrait nous motiver le plus, dans l'introduction de ces changements qu'ils demandent les jeunes, c'est qu'une grande majorité de ces jeunes a déclaré se voir adventiste dans les 20 prochaines années. Que manque-t-il pour nous convaincre? Je vous laisse sur le cœur cette réflexion pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse la parole dans nos cœurs. Amen.